Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux paradis fiscaux dont on dit depuis la crise de 2008 qu'un vent mauvais souffle dans leur voile. 9 mois après la parution des Panama Papers sur l'argent noir des sociétés offshore, regard sur ce qui a changé au regard des promesses faites alors que le passage à un système mondial d'échange automatique d'informations fiscales entre pays peine à se faire. Il faut dire que les enjeux sont colossaux. La richesse offshore représenterait 8 600 milliards de dollars, un chiffre vertigineux quand l'on sait l'impact de l'existence des paradis fiscaux sur les inégalités sociales et le manque à gagner des États. Les paradis fiscaux, nouveau grand jeu des rivalités de pouvoir géopolitique entre puissances dans lesquelles certains lobbies industriels et financiers sont également impliqués, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alain Deneau, directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Une escroquerie légalisée précise sur les paradis fiscaux, qui vient de paraître aux éditions Éco-Société. Bonjour.
Bonjour.
Et Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique, également auteur de plusieurs ouvrages, dont une bande dessinée, Les aventuriers de la finance perdue, le procès de la finance internationale, aux éditions Casterman, et également Les paradis fiscaux, aux éditions La Découverte, dont une mise à jour est à paraître au début de l'année 2017. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, peut-être... Un paradis fiscal, qu'est-ce que c'est? Qui possède ces richesses cachées dans les paradis fiscaux? Les particuliers, les multinationales, les banques? Alain Deneau.
Traditionnellement, on définit les paradis fiscaux comme étant des législations où le taux d'imposition est nul ou quasi nul, où le droit est retourné comme un gain. Ce qui est proscrit dans un État traditionnel deviendra légal dans un État de droit et vice-versa. Ce sont des législations où le secret prévaut, c'est-à-dire qu'il est très difficile pour les législations traditionnelles d'enquêter sur ce qui se trame dans les législations de complaisance. Et enfin, on n'y observe pas d'activité substantielle le plus souvent, c'est-à-dire que par le biais de boîtes aux lettres et d'inscriptions strictement formelles, on peut depuis les paradis fiscaux agir à partir de jeux d'écriture sans nécessairement qu'une activité réelle y ait cours.
Christian Chavagneux.
Oui, nous, dans le bouquin avec Ronine Palal, on a donné 10 caractéristiques, mais je pense qu'Alain Deneau avait bien résumé ce que sont les piliers fondamentaux des impôts faibles ou nuls. Le secret, je dirais, l'opacité, surtout la construction d'opacité. J'aime beaucoup son expression de législation de complaisance, parce que les paradis fiscaux, on a l'impression que c'est quelque chose d'économique. Or, par essence, un paradis fiscal, c'est quelque chose d'abord de juridique. C'est une astuce juridique qui permet de découpler deux choses. L'endroit où vous touchez de l'argent, alors vous êtes des revenus, des profits si vous êtes une entreprise, vous touchez n'importe quoi, et l'endroit où ça va être enregistré et donc contrôlé et taxé. Cette dichotomie entre ce qui se passe vraiment réellement et le monde complètement artificiel des paradis fiscaux, voilà, c'est ça qu'apporte le paradis fiscal, c'est tous les trucs juridiques possibles et inimaginables disponibles dans le monde chez les meilleurs spécialistes de la fraude et de l'évasion fiscale pour arriver à découpler ces deux endroits.
Alors, deuxième partie de ma question, qui possède des richesses cachées dans les paradis fiscaux, des particuliers, des multinationales, des banques, Alain Deneau?
Principalement des banques et des grandes entreprises multinationales, ou également des détenteurs de fortune. Le plus souvent, les détenteurs de fortune, pour schématiser, possèdent des actifs dans les paradis fiscaux sur un mode illégal, tandis que les multinationales pratiquent l'évitement fiscal, c'est-à-dire qu'elles arrivent, étant donné qu'elles existent sur un mode morcelé, fragmentaire, qu'elles constituent une myriade de filiales qui sont indépendantes en droit, transigées entre elles, c'est-à-dire qu'un conseil d'administration coordonne les activités de ces filiales-là, de façon à ce qu'à la fin d'un bilan, à la fin de l'exercice financier, il y ait le plus d'actifs possible concentrés dans les comptes des filiales et des entités qui sont dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire dans ces législations où le taux d'imposition est nul et quasi nul. Et c'est ce qui va expliquer toute la distorsion entre l'activité réelle et les données comptables.
Christian Chavagneux.
Oui, on a les particuliers, vous l'avez dit, on a une estimation, alors ça vaut ce que ça vaut, parce que bien évidemment, on est dans le cadre de l'opacité, donc on n'a pas un lieu où on peut aller chercher les données, mais 0,14% de la population mondiale utiliserait les paradis fiscaux, 8% de la richesse financière des ménages, nous dit l'économiste Gabriel Zucman, serait dissimulée dans les paradis fiscaux. Du côté des firmes multinationales, l'OCDE, cette grande institution internationale, l'année dernière, nous a donner une estimation pour la première fois de l'impôt sur les sociétés qui est fraudé en passant par les paradis fiscaux. Alors, l'OCDE nous a dit publiquement entre 4 et 10 %. Et puis, moi, j'avais eu des informations à l'intérieur de l'OCDE quelques mois avant qui disaient plutôt 25 %. Et Pascal Saint-Amand, qui est le patron de l'OCDE qui lutte contre ces pratiques fiscales douteuses au nom du G20, au moment de la conférence de presse publique, quand il a annoncé entre 4 et 10 % donc de l'impôt sur les sociétés fraudées par les paradis fiscaux, a dit « mais c'est une estimation vraiment à minima ». Et donc, je pense qu'en interne, on pense plutôt à 25 %, donc un quart de l'impôt sur les sociétés fraudées. Les banques, vous l'avez dit, sur les banques françaises, on pense que à peu près 44 % des profits réalisés à l'étranger par les banques françaises sont dans les paradis fiscaux. Mais n'oublions pas les mafias, n'oublions pas les services secrets. Tous ces réseaux d'opacité servent vraiment à beaucoup de monde.
Alors, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce qui a changé depuis la crise de 2008. Il y a eu beaucoup de discours vertueux, un peu plus de transparence. Alors, on a vu la Suisse lever son secret bancaire sur les détenteurs. Les États-Unis qui essayent de rapatrier, comme ils le peuvent, des fonds placés à l'étranger, notamment au travers d'une arme financière assez redoutable que vous allez nous expliquer. C'est le FATCA, le Foreign Account Tax Compliance Act, qui est une arme aux conséquences géopolitiques assez importantes. En tout cas, cette mesure est entrée en vigueur en juin 2014. Ce que l'on comprend, c'est qu'il y a une sorte de remodelage, mais pas de destruction. Ce qui explique que la richesse offshore ait recommencé à augmenter depuis 2012, plus vite que la croissance mondiale. Alors, c'est beaucoup du bruit pour rien, Alain Deneau.
En fait, on privilégie des mesures techniques dans une approche qui est certes légitime, mais qui ne permet pas d'agir radicalement. Je ne comprends pas qu'on n'en soit toujours pas au point où on s'attaque au problème des législations de complaisance sur un plan strictement politique et non technique, en voyant les législations de complaisance, dont les paradis fiscaux, comme des adversaires de l'état de droit. Des législations qui ont pour visée stricte de neutraliser le pouvoir du droit et de la loi dans les législations traditionnelles. Si vous prenez une législation comme les îles Caïmans, qui, dans son droit, prévoit la création d'exempted companies, les sociétés exemptées, ou dans les îles Vierges britanniques, les BVI, business companies, ou encore les trusts à Hong Kong, et ainsi de suite. Dans tous ces cas, la législation offshore conférera des avantages à ces structures, à savoir franchise d'impôts, anonymat quant aux bénéficiaires réels, ainsi de suite, à la condition que ces structures n'aient aucune activité sur le territoire concerné. Et on pourrait, comme l'a fait Margrethe Vestager ici en Europe quant à l'Irlande, du point de vue des réseaux diplomatiques occidentaux et des pays qui se présentent comme des États de droit, pointer du doigt ces législations-là en disant qu'elles abusent leur pouvoir législatif. Parce que ces législations se trouvent à voter des lois qui portent sur la façon dont le capital sera administré partout dans le monde sauf chez elles. Parce que le capital dont il est question ne doit pas, selon même les modalités de leur droit, avoir quelque interaction que ce soit avec la réalité territoriale. Si vous allez à la Barbade et vous créez une poissonnerie et que vous vendez des poissons au coin de la rue, vous serez imposé. Mais pas si vous créez une société de ce type offshore. Et à ce moment-là, les législations de complaisance créent une sorte de zone tampon anomique entre elles et les États traditionnels. Parce qu'ensuite, au Canada, au Japon, en France, en Espagne, vous aurez des administrateurs d'entreprises multinationales ou d'entités diverses qui vont créer des filiales ou des structures dans les paradis fiscaux à la manière de coffres virtuels et vont inscrire dans ces coffres-là des titres de propriété, des actifs financiers, ainsi de suite, en disant à leur gouvernement, ce qu'il y a dans ce coffre-là ne regarde plus votre autorité puisque désormais ce qu'il y a dans ce coffre relève du droit du Panama ou relève du droit des Caïmans ou de Hong Kong, alors que ces actifs-là sont en quelque sorte nulle part. Et c'est cette façon d'élargir les interstices entre les législations qui constitue les conséquences délétères de l'activité offshore.
Alors, Christian Chavagneux, quand Alain Deneau dit que les législations de complaisance sont les adversaires de l'état de droit, ce que j'aimerais qu'on arrive à éclairer et à permettre de mieux comprendre, l'existence des paradis fiscaux, elle est de facto liée aux rivalités géopolitiques entre les grandes puissances. On voit les Bahamas pour les États-Unis, Monaco et Andorre pour la France, les îles anglo-normandes pour le Royaume-Uni, le Liechtenstein pour l'Allemagne, la Caraïbe pour le Canada. Et on en parlera du Canada parce qu'il est complètement en dehors des écrans radars, ce qui est assez surprenant. Le Luxembourg et la Suisse pour tout le monde, et puis Hong Kong et Macao pour la Chine, Chypre pour la Russie. Bref, toutes les grandes puissances ont leurs paradis fiscaux. Donc, ça rajoute à la complexité. J'aimerais que vous nous expliquiez.
Alors, c'est vrai qu'historiquement, on s'aperçoit que lorsqu'on regarde un peu toutes les études, la fraude, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale agressive sont très liées géographiquement. Donc on a vraiment des paradis fiscaux qui servent plutôt les États-Unis, d'autres plutôt l'Europe, d'autres plutôt l'Asie, ce qui irait dans votre sens. En même temps, je ne pense pas qu'il y ait eu un grand complot mondial ou une grande pensée stratégique des différentes grandes puissances géopolitiques de dire alors telle partie du monde a ses paradis fiscaux donc il faut qu'on développe la nôtre. Le seul vraiment pays je pense qui le fait c'est Londres, c'est la City de Londres qui a très bien joué de l'ensemble de ses anciennes colonies pour organiser des rabatteurs d'argent pour développer le business de la City de Londres et c'était une stratégie gagnante. Aujourd'hui c'est Londres qui est le premier centre financier mondial, donc cette stratégie géopolitique assumée je pense qu'elle a été dès la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui la stratégie londonienne. Pour le reste, je ne pense pas que l'Allemagne ait voulu développer le Liechtenstein ou que la Chine ou l'Inde ait voulu développer l'île Maurice ou Hong Kong ou Singapour. Donc, c'est pas, les paradis fiscaux ne sont pas le lieu d'une bataille juridico liée à la géopolitique. Je pense plutôt qu'il y a eu des décisions un jour à Londres, une autre fois aux États-Unis, parce que n'oublions pas qu'à l'intérieur des États-Unis, il y a aussi des paradis fiscaux, des États comme le Delaware, le Wyoming et d'autres. Et puis, à un moment donné, ça a été plutôt vers l'Asie. Donc, c'est pas vraiment les instruments d'une bataille géopolitique entre les États, ce sont, me semble-t-il, si on veut vraiment faire de l'analyse politique ou de l'économie politique internationale, des instruments utilisés par les acteurs privés en connivence avec certains territoires pour organiser, comme l'a très bien expliqué Alain Deneau, des zones juridiques, des zones politiques où, grâce à l'expression de leur propre souveraineté, leur capacité à écrire la loi, ces territoires se sont insérés dans la mondialisation, non pas avec de la production de services financiers, mais de services d'opacité, grâce aux législations de complaisance dont il a parlé, et créer des lois qui permettent de contourner les lois des autres, les lois fiscales, mais aussi les lois réglementaires, mais aussi les lois qui, normalement, encadre la prise de risque des acteurs financiers.
Donc un système dans lequel personne n'a intérêt à ce que les choses bougent, Alain Deneau, si on veut bien comprendre. Et on peut peut-être parler du cas du Canada. Christian Chavagneux parlait de la City de Londres. Ça fait des siècles que ceci s'est créé. Et les Canadiens ont bénéficié d'une certaine manière de leur relation privilégiée avec le Royaume-Uni.
L'establishment canadien a pu bénéficier de relations privilégiées. En ce qui concerne le Canada, je suis tout à fait Christian Chavagneux sur le caractère un peu poussif du développement des paradis fiscaux, mais il reste que chez nous, la Barbade, qui est le paradis fiscal de prédilection des Canadiens, a été constituée de toutes pièces comme telle par les autorités politiques canadiennes. C'est-à-dire qu'en 1979, la Barbade a modifié sa loi pour permettre la création de structures qui sont exemptées d'impôts. L'année suivante, le Canada a signé un invraisemblable accord de non-double imposition entre son autorité et la Barbade, permettant ainsi à des entreprises canadiennes, entre guillemets, d'investir à la Barbade et de faire y avoir une activité qui est en réalité inexistante, de façon à pouvoir ensuite rapatrier les fonds dans la législation canadienne en prétextant avoir déjà payé des impôts à la Barbade, c'est-à-dire 0,25% à 1%. Alors on dit au gouvernement canadien, vous n'allez pas m'imposer une seconde fois sur ce capital qui a déjà été imposé à la Barbade, alors qu'il n'y a aucune activité. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la Barbade est le deuxième pays où les sociétés canadiennes investissent le plus après les États-Unis, alors qu'on parle d'une économie de la taille de la ville de Dijon, là. Mais d'une manière plus générale, ce serait une histoire très longue, je vais essayer de la faire brève. Il faut voir que le Canada est le résultat des politiques de l'Empire britannique. Je dis souvent du Canada que c'est le Congo de Léopold II réussi. Déjà au 19e siècle, la Colonial Bank, qui avait pour mandat de gérer toutes les activités financières des colonies britanniques de la Caraïbe, a confié en sous-traitance, si vous voulez, à des banquiers de Halifax, la Halifax Banking Company, le soin de cette intendance financière. Donc les banquiers canadiens étaient présents dès cette époque dans les futurs paradis fiscaux de la Caraïbe. Et ils étaient d'autant plus présents qu'aux États-Unis, il était interdit pour les banques de développer des activités à l'extérieur de la législation jusqu'à peu près en 1930, de sorte que les banquiers canadiens avaient pour clients très souvent des Américains qui souhaitaient investir dans la Caraïbe britannique en bénéficiant d'infrastructures financières, bancaires, que les États-Unis n'arrivaient pas à développer là-bas. Donc vous avez là toute une série d'acteurs qui se mettent en place et pour faire un grand saut dans l'histoire avec la création des euro-dollars après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall, vous avez des banques canadiennes qui sont déjà prêtes en quelque sorte à amener les petites législations minuscules de la Caraïbe-Britannique à se transformer en paradis fiscaux. Et l'exemple le plus spectaculaire, et je m'en tiendrai à lui, c'est celui des Bahamas, où au milieu des années 60, vous avez comme ministre des Finances Sir Stafford Sands aux Bahamas, qui, tout en étant ministre des Finances et ministre du Tourisme, ce qui n'est pas innocent, ce qui concerne toute l'activité du crime organisé américain qui cherche à délocaliser des fonds dans le milieu des casinos, ainsi de suite, vous avez Sir Stafford Sands également un membre du Conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, cette personne-là peut, en même temps, la même journée, le jour, administrer la législation qui sera taillée sur mesure sur les intérêts de la banque qu'il a pour mandat de gérer le soir. Et à ce moment-là, le représentant le plus influent du secteur banquier canadien était Donald Fleming, qui représentait la Banque Scotia. Et Donald Fleming était un ancien ministre des Finances de l'État canadien. Donc, vous voyez très bien comment le Canada s'est retrouvé, en quelque sorte, partie prenante dans la création des paradis fiscaux. Et le signe aujourd'hui de la continuité de cette politique, c'est que le Canada, au sein du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, partage son siège avec 12 paradis fiscaux, dont l'Irlande, et 11 paradis fiscaux de la Caraïbe-Britannique, dont certains sont considérés par des organisations internationales comme des narco-États.
Des informations dont on ne parle pas peut-être suffisamment. Christian Chavagneux, qu'est-ce qui a changé depuis 2008? Je parlais tout à l'heure de cette impression de remodelage. On a vu la part de la Suisse diminuer. C'est vrai que la Suisse a obtempéré et a opté pour une politique de transparence. Tout cela s'est décalé sur Singapour, Hong Kong, qui finalement bénéficient des décisions prises par la Suisse.
La Suisse a promis d'obtempérer, ce sera en 2018, pour ce qui concerne donc les particuliers, puisqu'on sait que la Suisse, en gros, a à peu près un tiers du marché de la gestion de fortune des personnes les plus aisées. Donc, qu'est-ce qu'a fait le G20 de ce point de vue-là? Il essaye de mettre en place ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations fiscales. C'est-à-dire, vous êtes un Français, vous allez ouvrir un compte en Suisse, le fisc français sera, dans les mois qui suivent, informé du fait que vous avez ouvert un compte en Suisse. Donc, évidemment, ça rend la chose un peu moins intéressante. La Suisse a promis de donner cette information à partir de 2018. Est-ce que, du coup, ça vaut la peine, comme l'a fait Jérôme Cahuzac quand il a compris ça, d'aller mettre son compte à Singapour? Non, parce que Singapour s'est aussi engagé, et en fait l'essentiel de tous les paradis fiscaux se sont tous engagés entre 2017 et 2018 à donner cette information. Donc sur le principe, ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, et bien évidemment, il y a des trous dans la raquette. Vous avez la petite île de Saint-Kitts par exemple, qui dit que si vous avez 250 000 dollars à placer dans son industrie sucrière, elle vous donnera en échange un certificat de résidence. Donc moi j'ai 250 000 dollars, je vais à Saint-Kitts, je place cet argent sur l'île, j'ai un certificat de résidence et le lendemain, je vais ouvrir un compte en banque en Suisse. On me dit, qui êtes-vous? Je dis, voilà, je suis Christian Chavagneux, résident de Saint-Kitts. Et l'information que vont donner les banques suisses vont partir à Saint-Kitts et finir à la poubelle. Bon, bien évidemment, c'est un peu simplifié parce que si je suis quelqu'un de très aisé et que je déclare beaucoup d'argent et que tout d'un coup, j'en déclare plus pendant un an ou deux, le fisc français va s'apercevoir que je suis devenu résident de Saint-Kitts, il va se douter de quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens du G20, de l'OCDE qui mettent en place la politique du G20 ont décidé de se retrouver en 2020 pour voir s'il y avait des trous dans la raquette et si on pouvait faire quelque chose. Ça, c'est pour les particuliers. Et pour les multinationales, il y a un plan en 15 points qui s'appelle BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, érosion des bases fiscales et transfert artificiel des profits, qui là est un plan où il y a un mur avec des fuites d'eau partout et on colle un peu des rustines comme ça un peu partout. Là aussi, en 2020, on a prévu de revenir à la charge pour voir si ça se passe bien ou pas. C'est un plan qui va plutôt dans le bon sens. Il y a des manques, c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va plutôt dans le bon sens. Ça remet pas en cause l'architecture des multinationales dont Alain Deneau a parlé tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, il y aura toujours la possibilité de s'inscrire dans les interstices. Ce qui est important pour nous, Européens, c'est que ce principe général, qui est mis dans le plan en 15 points de l'OCDE, il doit être transcrit au niveau européen, puis du niveau européen, il doit être transcrit au niveau national. Il y a un point, par exemple, qui est en discussion là, ces jours-ci. Vous savez que c'est les Pays-Bas qui, aujourd'hui, sont à la tête de l'Union européenne pour quelques mois encore. Et lorsque on a un produit un peu bizarre qui d'un côté peut être une action, de l'autre côté peut être une obligation. Alors deux actifs financiers très différents mais qui sont taxés de manière différente. Ce qu'on appelle des produits hybrides. Évidemment, là où les actions sont très taxées, ils apparaissent comme des obligations et là où les obligations sont très taxées, ça apparaît comme des actions. Donc les techniciens appellent ça des produits Janus, des produits hybrides qui en fait échappent à la taxation. Normalement, l'Europe doit prendre des mesures pour lutter contre ce type de produit. Eh bien, nos amis hollandais nous ont proposé une loi qui permet de faire tout et n'importe n'importe quoi avec ces produits hybrides, signalant ici leur rôle de paradis fiscal au sein de l'Union européenne. Et c'est bien sûr pour nous, Européens, l'un des gros problèmes, c'est que les gros paradis fiscaux qui sont utilisés par nos firmes et par nos particuliers sont au sein de l'Union européenne. Et donc, vous avez là un comportement des Hollandais tout à fait dramatique, parce que oui, on nous dit le G20 va dans le bon sens, oui, l'Europe va récupérer le G20, sauf que concrètement, lorsqu'il faut traduire ça en loi, on va dans le mauvais sens.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Alain Deneau et Christian Chavagneux dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les paradis fiscaux. Nous retrouvons nos invités. Alain Deneau, directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont une escroquerie légalisée précise sur les paradis fiscaux qui vient de paraître aux éditions Éco-Société. Et Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative économique, également auteur de plusieurs ouvrages, dont une bande dessinée, Les aventuriers de la finance perdue, le procès de la finance internationale aux éditions Casterman. Et puis, en collaboration avec Ronin Palan, les paradis fiscaux, dont l'édition actualisée paraîtra début 2017 aux éditions La Découverte. Christian Chavagneux, on a quitté la première partie de l'émission en évoquant la question paradoxale de l'Europe et des paradis fiscaux. J'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur le cas de la société Apple et de l'Irlande, des sanctions qui ont été décidées à l'encontre de la compagnie américaine. Mais l'Irlande qui refuse les virements d'Apple et a même fait appel de la décision de la Commission européenne. On est dans une contradiction absolument totale et c'est un exemple qui montre bien les difficultés à faire avancer les choses.
Malheureusement, l'Europe est aujourd'hui la zone où la concurrence fiscale est la plus développée. Et ça va même au-delà de la concurrence fiscale. Parce qu'on peut se dire, une entreprise qui doit payer 33-35% de taux d'impôt sur les sociétés, en France par exemple, alors qu'elle peut payer 12,5% en Irlande, on comprend que les sociétés veuillent plutôt aller en Irlande. Mais on n'en est plus là. La commissaire Vestager, la commissaire européenne, nous a dit que la société Apple avait terminé en 2014 avec un taux d'imposition de 0,005%. Donc là, on n'est plus à 12,5%. On n'est plus dans de la concurrence fiscale. On est dans le racket fiscal de l'Irlande vis-à-vis des autres pays européens. Comment ça s'est produit ? Eh bien, l'Irlande, comme le Luxembourg, ont développé la production industrielle de ce qu'on appelle des rulings, c'est-à-dire en français des rescrits fiscaux. Ce sont des accords fiscaux secrets qui ont été développés, là en l'occurrence entre Apple et le fisc irlandais, qui leur permet d'avoir un taux d'imposition complètement factice. Pourquoi ? Parce qu'on permet, on autorise à la société Apple d'utiliser des techniques qui vont leur permettre de délocaliser leurs profits vers un ailleurs qui n'existe pas du tout et qui n'est pas taxé, ce qui fait que les bénéfices réalisés au final sont taxés au taux ridiculement. Et là, on est vraiment dans un comportement délétère de la part du Luxembourg, de l'Irlande, donc de pays qui sont à l'intérieur de l'Union européenne. Et jusqu'à présent, les multinationales nous disaient « Oui, peut-être que je triche un peu avec l'impôt, mais tout ça est légal. » Et ce qu'a fait la commissaire Vestager est très très important sur le plan juridique parce qu'elle nous a dit « Non, au regard des traités européens, ce comportement est illégal. » Et ça change complètement la donne. Elle nous dit « Puisque Apple a bénéficié de ce type d'avantage, alors que d'autres entreprises du même secteur n'en ont pas bénéficié, vous avez donné un avantage indu à Apple. Or, les traités européens disent qu'il faut une concurrence libre et non faussée. La concurrence est faussée, Apple doit rembourser 13 milliards. » Bien évidemment, l'Irlande, comme le Luxembourg, disent « Attendez, si vous faites ça, toutes ces sociétés qui viennent s'installer chez nous et qui nous versent des commissions et font que l'Irlande ou le Luxembourg ont des recettes fiscales assez conséquentes, finalement, par rapport aux nôtres, eh bien, la commissaire Vestager a dit « Ce comportement est illégal. » Et ça, c'est vraiment un point juridique extrêmement fort.
Alors, Alain Deneau, c'est aussi toute l'architecture des multinationales qui est à revoir d'une certaine manière, parce que si ce que décrit Christian Chavagneux est possible, c'est précisément en raison de la complexité de cette architecture des grandes compagnies mondiales.
On ne prend pas suffisamment conscience du fait qu'en droit, les multinationales n'existent pas d'une manière une, avec un seul compte bancaire et une seule entité. Ce sont des myriades d'entités qui sont indépendantes en droit et qui relèvent chacune des États où elles sont officiellement enregistrées. Bien entendu que ces entités-là peuvent, du moment qu'on les considère indépendantes en droit, s'envoyer des factures, transiger entre elles. même se poursuivent en justice, elles deviennent complètement folles. Il y a comme un morcellement qui leur profite. On peut, à la fin de l'année, caser, comme ça a été le cas pour Google il y a quelques années, 10 milliards de dollars dans ses comptes aux Bermudes, tandis que les activités ont bien entendu lieu ailleurs. Et des professeurs de droit fiscal développent ces années-ci des modèles pour tenter de voir comment on pourrait imposer les multinationales sur la base de leur bilan consolidé, c'est-à-dire d'une manière une. Le modèle le plus souvent développé, ce serait une organisation mondiale de la fiscalité sous l'égide de l'ONU qui aurait le pouvoir, quant à ces entreprises de nature multinationale, de les imposer à un taux unique, une fois pour toutes, et ensuite de distribuer le fruit de ce processus fiscal aux différents pays où se trouve présente la dite entreprise au prorata de ses activités. Mais on n'a pas à attendre cette providentielle organisation avant d'agir. On peut imaginer que des États, isolément dans un premier temps, développent une méthode pour estimer ce qu'il en est de la part d'activité d'un groupe chez eux au regard de leur bilan consolidé. La France, l'Espagne, le Canada, le Japon pourraient très bien dire à McDonald's ou à Coca-Cola ou à Google, vos revenus relèvent à tel pourcentage de votre présence chez nous. Et nous allons rompre avec cette vieille jurisprudence du lieu de résidence et de votre inscription légale chez nous pour nous concentrer sur les données que vous divulguez auprès de vos actionnaires. Et nous allons, grâce à une méthode qui porterait sur le capital, sur le volume d'activité, sur un certain nombre de choses, nous allons établir quelle est la part de votre revenu qui dépend de votre présence chez nous et nous allons l'imposer sur cette base, même si les fonds ont quitté le pays. Et il pourrait même y avoir une technique qui serait celle du seuil plancher, c'est-à-dire que notre loi va entrer en vigueur le jour où X nombre de pays auront voté une mesure similaire, de façon à ce que nous créions déjà un mouvement d'émulation, et aussi que nous ne nous isolions pas, mais la loi sera rentrée en vigueur.
Christian Chavagneux.
C'est vraiment un point très très important qu'Alain Deneau vient de développer. C'est la solution théorique, juridique, la plus adaptée à l'optimisation fiscale agressive des multinationales. Alors, on va un petit peu dans ce sens-là, puisque ce que met en place le G20, ce que met en place l'Europe, ce que met en place la France, c'est ce qu'on appelle le reporting pays par pays. Obliger les grandes multinationales qui sont présentes sur un territoire à lister toutes les filiales qu'elles ont partout dans le monde et à dire, dans tous les pays en tout cas où elles sont représentées, quel est le montant du chiffre d'affaires, quel est le nombre de personnes employées, quels sont les profits réalisés, quels sont les impôts payés. Si on s'aperçoit, par exemple, que dans un territoire, il y a 2 personnes employées et que c'est 80% des profits, on s'aperçoit qu'il y a eu un transfert artificiel. Donc, ce n'est pas la réponse, mais en tout cas, en termes de transparence, ça va nous permettre de savoir si ces activités de transfert artificiel de bénéfices ont lieu, et on sait qu'elles ont lieu. Donc, on va pouvoir les mettre en évidence. Il faut que ces informations soient, bien sûr, publiques. Et d'ailleurs, la France s'y est engagée à partir de 2018, même si l'Union européenne n'a pas avancé. C'est un point extrêmement clé. Le problème, c'est que politiquement, ça n'avance pas.
C'est la question que j'avais posée.
Personne n'en veut au niveau mondial. Au niveau européen, ça fait 16 ans maintenant qu'on essaye à peu près de le mettre en œuvre. On n'y arrive pas. Est-ce qu'il faut le faire au niveau national, du coup ? Le Royaume-Uni a mis en œuvre ce qu'ils ont appelé une Google Tax. C'est exactement sur le principe qu'Alain Deneau a développé. On estime que vous faites tant de pourcents de votre business chez nous. C'est supérieur à ce que vous déclarez. On va le taxer. Il y a un parlementaire français, Yann Gallu, qui, la semaine dernière, a fait voter le même principe de cette Google Tax en France. Le problème d'additionner les taxes nationales, c'est pour ça que j'aime bien la solution d'Alain Deneau qui consiste à dire on le met dans le droit, mais on le mettra en œuvre que quand 10-15 pays l'ont fait, est une réponse assez intelligente. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment le faire au niveau mondial, et là je termine avec ça. Les États n'ont pas réussi dans le cadre de ce fameux plan BEPS. Un des 15 points du plan BEPS, c'est de dire bon, si on arrive vraiment à reprendre les profits de ces multinationales, comment est-ce qu'on se les partage ? Google, par exemple, on sait, Alain Deneau l'a rappelé, l'essentiel des profits vont dans la filiale située aux Bermudes, donc ils ne sont pas taxés. Si demain, avec le fameux plan de l'OCDE, on arrive à dire voilà, on a bouché tous les trous qu'il fallait, on va récupérer de la base fiscale. Qui doit la récupérer ? Donc, il faut trouver un moyen entre l'ensemble des grandes puissances pour se répartir cette base fiscale qu'on pourrait récupérer. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord au niveau mondial.
Donc, on l'a bien compris, il faut de la volonté politique, elle n'est pas forcément là. Et au niveau national, il y avait un exemple pour préparer cette émission qui m'avait surpris. C'est un exemple qui a cours dans les pays scandinaves où on voit les municipalités ne pas s'accorder de contrats en travaux publics à des sociétés qui ont un passif offshore. En tout cas, on n'est pas à l'échelle que vous évoquez à l'instant, mais c'est en tout cas voilà, des petites pierres qui sont peut-être posées. Les conséquences de cet argent et de la richesse offshore qui représentait, alors moi j'aimerais bien que vous me donniez des chiffres, j'ai lu 8 600 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Apparemment, je suis très loin de ce qui est avancé et j'aimerais qu'on passe un petit moment sur les conséquences et ce que l'on sait du coût social de l'évasion fiscale et de ces processus. Qui veut répondre à l'un de nous ?
Les données comptables et chiffrées que nous avons nous donnent une grandeur d'échelle pour comprendre l'ampleur du problème, qui est abyssal. Cela dit, effectivement, James Henry du Tax Justice Network USA dira que les actifs en circulation dans les paradis fiscaux oscillent entre 21 000 milliards et 32 000 milliards de dollars.
Donc
c'est 21 et 12 zéros.
Oui.
Bon. Et même en ce qui concerne le manque à gagner dans les États, on peut spéculer longtemps pour savoir ce qu'il en coûte à un État que des multinationales ou des particuliers fortunés contournent leurs obligations fiscales. Mais il y va bien davantage de dynamiques sociologiques et socio-économiques. D'abord, oui, bien sûr, quand vous avez, par exemple, au Canada, une donnée qui nous dit que les entreprises canadiennes ont délocalisé 200 milliards de dollars dans les 10 principales législations de complaisance où on les trouve. Ou quand vous entendez qu'en France, 30% des investissements directs à l'étranger concernent des destinations offshore. Vous voyez bien qu'il y a des capitaux qui ne sont pas imposés. C'est ce qui explique après les budgets d'austérité. Mais ce n'est que le début. Parce qu'ensuite commence le dumping. Vous avez dans bien des pays européens et au Canada, des gouvernements qui vont dire il faut retenir les capitaux pour pas qu'ils partent eux aussi. Alors on va imiter les paradis fiscaux, on va les imposer moins. L'impôt sur le revenu des entreprises au Canada en 1981 était de 50 %. Au palier fédéral, il était de 38 %. Aujourd'hui, au palier fédéral, il est passé à 15 %. On a aboli un certain nombre d'impôts. Donc, ça fait encore moins de rentrées dans le trésor public. Toujours à cause de cet enjeu de la compétition fiscale des États avec les législations de complaisance qu'on présente comme de dignes souverainetés plutôt que de faire la lutte politique à ces législations. Et donc, à la fin de l'année, on n'arrive pas à boucler le budget. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte à des institutions financières qu'on n'impose plus. Alors, c'est le monde à l'envers. Ce sont les contribuables qui se trouvent au titre du service de la dette à financer des institutions financières qu'on n'impose plus. Et ça crée un trou énorme dans le budget de l'État sur un mode récurrent, on le sait, dans tous les pays. Et finalement, on se trouve à imposer des tarifs, ce qui est une autre conséquence. Donc, tout d'un coup, il va y avoir une taxe sur l'accès à tel service public, on va augmenter le prix du transport en commun, ainsi de suite. Et les services publics en question vont être de moins en moins bonne qualité.
Vous le dites en introduction de votre ouvrage, Alain Deneau, lorsqu'on attend 40 minutes un train pour la troisième fois de la semaine, c'est à cause des paradis fiscaux. Lorsqu'un hôpital tarde à procéder à une intervention chirurgicale pourtant cruciale, c'est aussi à cause des paradis fiscaux. Enfin, vous dressez toute une liste, Christian Chavagneux.
Oui, bien sûr. Le manque de recettes fiscales qui fait qu'on est conduit à une dégradation des services publics est l'un des problèmes des paradis fiscaux. Et plus généralement, ce sont des dynamiteurs de démocratie. Parce que les paradis fiscaux, on pense généralement en France que c'est entre 15 et 20% des recettes fiscales qui échappent aux recettes publiques. Et donc, c'est une part substantielle, très importante, qui est quelques années équivalente au déficit budgétaire. Donc, toutes les politiques d'austérité dont on nous rabâche les oreilles depuis des années et des années auraient pu être largement allégé si on avait eu ces recettes fiscales. C'est aussi des paradis fiscaux qui nourrissent les inégalités parce que même si on s'aperçoit ces dernières années qu'il y a une forme, entre guillemets, de démocratisation des paradis fiscaux, c'est-à-dire que c'est pas seulement les Liliane Bettencourt et les grandes multinationales qui les utilisent, mais LuxLeaks, SwissLeaks nous ont fait voir qu'il y avait des hauts cadres de multinationales. Chaque fois qu'il y a des affaires comme ça, on trouve même à chaque fois un évêque ou deux qui ont trouvé la voie du paradis beaucoup plus rapide que celle d'attendre quelque chose sur le plan des valeurs. Donc ça nourrit les inégalités parce que c'est d'abord au service des plus puissants. Ça nourrit aussi le fait qu'on a l'impression que la mondialisation est gigantesque et qu'elle nous impose des contraintes. Avec Ronine Palade, quand on fait le tour de toutes les études partout dans le monde, tout le monde arrive à peu près à la même estimation, à savoir que la mondialisation financière des multinationales est surestimée de 30%. La mondialisation aujourd'hui, quand on voit le niveau, il faut dire que c'est 30% moins important que ce qu'on croit, parce que 30% des flux sont des flux artificiels qui sont liés à l'optimisation et à la fraude et à l'évasion fiscale. Donc oui, le vrai problème des paradis fiscaux, il est là, il est dans son essence juridique, mais dans ses conséquences politiques, ce sont des dynamiteurs de démocratie.
Alors, on a parlé du Canada, on n'a pas beaucoup parlé des États-Unis. j'aimerais peut-être qu'on en dise quelques mots. Je l'évoquais dans la première partie de l'émission, cette arme financière lancée et entrée en vigueur en tout cas en juin 2014, qui s'appelle le FATCA, le Foreign Account Tax Compliance Act, qui est une façon pour les États-Unis de retrouver leur hégémonie sur le plan de la finance mondiale en imposant des choses très précises aux banques à l'étranger qui sont tenues de tenir et de fournir aux autorités américaines le registre des détenteurs américains ayant des comptes à l'étranger. Ça se passe dans un sens et ça se passe pas forcément dans l'autre. Et que dire des conséquences ? Finalement, c'est tout bénéfice pour les États qui sont des paradis fiscaux aux États-Unis, le Delaware, le Montana, Christian Chavagneux.
C'est de l'hégémonie bienveillante quand même, hein, parce que lorsqu'en 2010, les États-Unis votent la loi avant qu'elle soit mise en œuvre quelques années plus tard, c'est le début de ce qu'on a appelé tout à l'heure l'échange automatique d'informations fiscales. Vous, banque étrangère, vous, acteurs financiers étrangers, vous offrez des services financiers à des Américains, il faut me le dire à moi, fisc américain, et je ne suis pas obligé de vous le demander, vous allez me l'envoyer de manière automatique. Le G20 a repris cette idée pour mettre en œuvre l'échange automatique d'informations fiscales, ce qui est vraiment un point important. Donc les États-Unis ont bien poussé dans ce sens-là, et c'est de l'hégémonie bienveillante. Alors à côté, vous avez tout à fait raison, les États-Unis ne se comportent pas de manière tout à fait sympathique tout le temps, puisque dans le cadre de cet échange automatique d'informations fiscales, ils acceptent de recevoir toutes les informations du monde entier, mais pas de les donner. En tout cas, pour l'instant, ils pensent que certains pays n'ont pas le droit de recevoir l'information des États-Unis. Donc, il va y avoir des échanges bilatéraux. Les États-Unis avec l'Europe, il n'y a pas de problème. Quelques pays latino-américains, non. Quelques pays asiatiques, non. Quelques pays africains, non. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. Il ne faut pas donner à un dictateur les comptes de ses opposants s'il est installé aux États-Unis. Mais quand même, on va bien au-delà de ça. Pour l'instant, les Américains ne veulent pas donner les informations à tout le monde. Et puis, vous avez raison, il y a un problème interne aux États-Unis. Les paradis fiscaux ne sont pas que offshore, ils peuvent être aussi onshore, à l'intérieur. Là, Barack Obama a essayé quelques petites choses au niveau du Delaware, mais ça reste encore un filet avec beaucoup de trous. Et malheureusement, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis ne risque peut-être pas de nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Monsieur Mnuchin, le nouveau ministre des Finances qui va prendre son poste
au mois de janvier.
C'est un ancien de Goldman Sachs. C'est un businessman qui a l'habitude de l'optimisation fiscale agressive au niveau mondial. Je crains que les États-Unis soient un petit peu moins moteurs à l'avenir, alors que jusqu'à présent, il faut le répéter, l'hégémonie américaine en ce sens a plutôt été bienveillante.
Oui,
on peut ajouter sur les États-Unis que le Delaware agit également comme paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Delaware loophole. L'État, par exemple, de Pennsylvanie s'en plaint énormément, mais il y en a d'autres aussi, à savoir qu'une firme américaine peut, à l'intérieur des États-Unis, délocaliser artificiellement ses bénéfices de façon à éviter l'impôt des différents États de la Fédération américaine.
Le Delaware, qui, vous le dites dans votre ouvrage « Une escroquerie légalisée », s'est spécialisé dans le paradis réglementaire pour le dépôt de bilan des entreprises. Chacun s'est réparti un peu les territoires et chacun a une spécialité en termes de alors pas de paradis fiscaux, vous appelez ça les législations de complaisance, Alain Deneau, pour conclure.
Oui, en fait, les législations de complaisance constituent un terme générique pour désigner différents types d'États analogues. Donc les paradis fiscaux, ce qui concerne le fisc, mais également les ports francs, ce qui concerne l'immatriculation de navires, dont les armateurs souhaitent contourner les normes et les contraintes en matière de sécurité et d'entretien. Vous avez les zones franches en ce qui concerne le travail et toute une série de paradis réglementaires qui correspondent aux différentes législations de complaisance. Donc c'est un terme générique qui permet de politiser le problème et de sortir de la seule question fiscale qui est éminente mais qui n'est pas exclusive. Et si on fait un tour d'horizon, on se rend compte que les législations de complaisance sont un petit peu comme les boutiques d'une rue commerçante. C'est-à-dire que chaque législation a son champ d'expertise. Si un acteur veut, par exemple, dissimuler les bénéficiaires réels d'activité, on ira plutôt au Panama. S'il s'agit du dépôt de bilan, effectivement, le Delaware est un lieu tout désigné parce que les actionnaires subissent beaucoup moins de conséquences quand il y a un dépôt de bilan d'une grande entreprise qu'ailleurs dans le monde. Pour les plateformes d'exploitation en mer, comme celle de BP qui a provoqué une marée noire dans le golfe du Mexique, on ira aux îles Marshall. Pour le Paris sportif, ce sera Singapour. Pour la gestion d'actifs dans le domaine de la vie, aviation, ça sera les îles Caïmans. Pour le domaine de l'assurance, et les îles Saint-Kitts.
Les
Bermudes, oui, tout à fait. Et on peut continuer ainsi la liste et entrer ensuite dans les filières criminelles. Le blanchiment des fonds issus du narcotrafic se fait au Panama, ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, et Marie-Christine Dupuy-Danon en parle très bien dans Finances criminelles, c'est un ordre négatif qui se développe et qui permet à des acteurs qui ont pour dessein de commettre des actes criminels ou délictueux de trouver un lieu d'enregistrement où ce projet ou cette activité-là devient légale.
Christian Chavagneux.
Juste pour compléter, c'est pour dire aussi que ces législations de complaisance permettent aux acteurs financiers de prendre des risques de manière disproportionnée. On a vu que l'ensemble des grands acteurs financiers qui ont explosé au moment de la crise des subprimes étaient très présents dans les paradis fiscaux.
Merci. C'est la fin de Géopolitique, à regret, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ces législations de complaisance. Merci à nos invités, Alain Deneau, directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont Une escroquerie légalisée précise sur les paradis fiscaux qui vient de paraître aux éditions Éco-Société, et Christian Chavagneux, éditorialiste alternative économique, également auteur de plusieurs ouvrages, dont une bande dessinée, Les aventuriers de la finance perdue, le procès de la finance internationale aux éditions Casterman, et un ouvrage qui s'intitule Les paradis fiscaux aux éditions La Découverte, coécrit avec Ronin Palan. C'est la fin de Géopolitique. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique sera consacrée à la santé dans le monde. À très bientôt.
Ministère de la Jeunesse et des Sports.